l'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs les malades.
Et pour l'Ordre de Malte, nous retrouvons Philippe Rideau, bonjour.
Bonjour Mickaël et bonjour chers auditeurs.
Pour cette dernière chronique avant les vacances, vous avez choisi de nous partager quelques réflexions à méditer pendant l'été.
Eh bien oui, car voici venue effectivement ma dernière chronique avant les grandes vacances, en cette période où les grands événements sportifs internationaux notamment attirent l'attention, tandis que les projets de voyage, de réunions familiales ou amicales se précisent, avec cette année des restrictions financières qui pénaliseront malheureusement en France bon nombre de nos contemporains dans leurs projets de vacances. Alors, le temps n'est certainement pas à l'optimisme délirant. L'actualité déchirante de l'assassinat de Liana à Florence, dans le Gers, non loin de chez nous, porte en elle tous les symptômes de notre société fracturée, déchirée, incapable d'harmonie, incapable de promouvoir l'attention aux plus faibles. Alors, dans ces circonstances, l'Ordre de Malte s'exerce humblement, patiemment, mais aussi avec conviction à cet exercice, partout où il se trouve et où il le peut, y compris pendant la période de vacances. Et il trouvera, à n'en point douter, réconfort, encouragement, prière à continuer toujours au mieux dans les derniers discours du pape Léon XIV, dont celui qualifié d'essentiel, prononcé il y a peu devant le Parlement espagnol. Ces déclarations papales qui sont autant de lumière, de clarté sur notre route, sur chacune de nos routes, tout au long, pourquoi pas, de l'été qui arrive, ces vacances qui n'empêcheront pas, malheureusement, la funeste mise en œuvre de projets mortifères comme celui de l'euthanasie au Parlement, le nôtre, entre deux matchs de Coupe du Monde ou deux étapes du Tour de France. Le diable n'arrête jamais son œuvre destructrice. Alors, il est bon tout d'abord de rappeler, pour bien cadrer ces quelques éléments de ma réflexion que je souhaite vous partager, et de ses conséquences concrètes, que l'Église n'est pas hors sol, elle marche avec l'humanité, elle partage ses espérances et ses blessures, écoute les interrogations de chaque époque et s'interpelle, si je puis dire, sur ce qui concerne l'existence des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Sa réflexion naît du désir de servir le fameux bien commun, celui qui nous appartient à tous, et de rappeler ce qui rend véritablement humaine la vie en société. La question fondamentale qu'il ne convient pas d'oublier peut donc être la suivante. Quelle conception de la personne humaine inspire les lois et quel type de société ces lois construisent-elles? Le discours de Léon XIV aux parlementaires espagnols, qui, entre parenthèses, quelle que soit leur appartenance politique, l'ont ovationné, nous apporte quelques clés de réponse très intéressantes et utiles. Le progrès offre des possibilités admirables, dit le Saint-Père, et nous le voyons aujourd'hui, par exemple dans le développement de l'intelligence artificielle et de tous les progrès qu'elle emporte. Mais il ne faut pas en être esclave, mais bien au contraire, discerner ce qui peut être un apport considérable et aussi ce qui peut constituer un obstacle redoutable à notre accomplissement. Discerner sur la place qu'occupe la personne humaine dans nos décisions et sur la manière dont s'oppose aujourd'hui, donc sous un jour nouveau, la question essentielle de la dignité du travail, la solidarité, la politique sociale et le bien commun, à partir d'un postulat fondamental, nous rappelle le Saint-Père, toute société véritablement juste se fonde sur la reconnaissance de la dignité inviolable de la personne humaine. Nous voilà vraiment, chers amis, au cœur de notre vie quotidienne, au cœur de notre action maltaise, au cœur de notre motivation. C'est la conviction première de l'Église et ajoute le pape, si cette conviction est vivante, le droit devient alors une protection pour tous et une garantie face à l'imposition d'intérêts et d'agendas particuliers. Voilà la base véritable de l'état de droit dont on se repaît en permanence. Parlons plutôt du droit de l'État. Et sur cette base, Léon XIV dit au Parlement espagnol et au-delà aux parlements occidentaux, dont le nôtre, qui a tant besoin de paroles de vérité, une parole sereine, calme et, comme l'a souligné dernièrement Monseigneur Hayé, notre évêque, une parole ferme. Ferme, c'est le qualificatif même employé par Léon XIV. Cette vie en société, dit-il, que vous devez juridiquement, selon la loi, organiser, peut être menacée par la culture du rejet. Et si la vie cesse d'être reconnue comme une valeur fondamentale, quel avenir nos sociétés peuvent-elles avoir ? Quel sujet de réflexion, chers amis ! Et peut-on qualifier de pleinement juste une communauté qui laisserait alors dans l'ombre l'enfant à naître, la personne âgée, le malade, celui qui souffre en silence ou qui dépend entièrement des soins d'autrui. La défense de la vie humaine n'est pas une option, c'est un objectif de civilisation plein et entier, ce n'est pas une question partielle, ponctuelle ou un intérêt confessionnel. Il n'y a vraiment aucune ambiguïté et en ce sens, cela, je pense, fait du bien à entendre, loin des sous-entendus ou desseins cachés. Écoutons plutôt. Toute vie humaine doit être reconnue et protégée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel dans toutes les circonstances de son existence. Protégée donc par le politique, par la loi, par le médecin, mais aussi par chacun et chacune d'entre nous. Car soyons très clairs, dans le combat législatif qui nous concerne, notamment en France, la loi sur l'euthanasie, c'est très concrètement celle de l'ultime injonction létale, celle de la responsabilité donc collective, mais bien évidemment potentiellement individuelle, et qui nous concerne chacun d'entre nous. Enfin, le Saint-Père rappelle aux parlementaires, finalement de tout pays, que si la certitude du primat de la vie de chaque personne s'estompe, est amoindrie, alors les plus vulnérables sont les premières victimes. Et la loi perd son sens le plus profond, servir et protéger chaque personne, quelle que soit sa condition sociale, sa richesse, etc., etc. Chaque personne. C'est pourquoi la grandeur morale d'une nation se manifeste avant tout dans sa capacité à accompagner, protéger et aimer les vies qui traversent la plus grande fragilité. La grandeur morale d'une nation. Quel autre sujet de réflexion ? Que cela signifie-t-il pour nous ? Quelle interpellation, chers amis, à aimer sa nation, à la conforter dans sa vocation de service ? Cette nation qui, comme l'affirmait Saint Jean-Paul II, fait en l'homme l'humain. Alors, que ce temps de vacances vous soit d'abord et principalement heureux, bien évidemment, en famille, avec vos proches, avec vos amis, au hasard, des sites visités, des visages croisés, en communion de pensée et de prière avec tous ceux qui, éprouvés par le deuil, la souffrance, la maladie, l'isolement, ne pourront goûter cette année au plaisir réel des vacances. Alors, puissions-nous trouver, comme nous y invite également Monseigneur Hayé, pendant ce temps, le sanctuaire entre mer et montagne, qui invite aussi à un moment de silence et de contemplation dans la joie réelle de la présence de notre Seigneur, toujours avec nous. Belles vacances, amis du pays, amis de passage en notre si beau Pays Basque, où il existe tant de ces sanctuaires de beauté qui vous attendent, qui nous attendent. Oporal Dion, Eta Lachter Arte. Bonnes vacances à tous et à bientôt.
Merci beaucoup Philippe Rideau, bonnes vacances. À vous aussi, rendez-vous à la rentrée.
À très bientôt, merci Michael.
L'Ordre de Malte, près de 1000 ans au service de nos seigneurs, les malades. www.ordredemaltefrance.org